Donc Antoine Laurent, l'Université de Toulouse, qui va parler donc de la détection au relevé, une simple question d'apprentissage avec un point d'interrogation.
Eh bien, bonjour à tous, merci aux organisateurs pour cette journée de pouvoir présenter ici les travaux, notamment passer de la détection au relevé archéologique. Lorsque l'on parle des outils de segmentation, ils sont devenus à peu près communs pour de nombreux cas d'usage, notamment lorsque les objets concernent des objets du quotidien actuel. Mais qu'en est-il pour des objets archéologiques? Quelles sont les applications? Aujourd'hui, je parle pour un collectif, nous proposons un retour d'expérience sur des travaux effectués lors de stages au sein de l'Institut en recherche en informatique de Toulouse, mais également ici au Musée d'archéologie nationale. Alors, lorsque on parle de la segmentation d'images, cela généralement regroupe trois étapes différentes. La détection d'objets dans une scène, la segmentation de l'objet afin d'en avoir son contour, ou encore la notation sémantique afin de pouvoir désigner l'objet. Ces étapes peuvent être conjuguées ou ne pas forcément arriver dans cet ordre-là. Et notre problématique est de passer d'une image à un relevé, donc à une interprétation afin de localiser et désigner des artefacts. Et pour cela, notre corpus d'études intègre une mosaïque antique, des pétroglyphes, de l'art pariétal ou encore des graffitis contemporains. Et pour y répondre, le plan de la présentation, nous allons commencer donc avec des réseaux génériques, on va dire sur étagère, où on peut procéder à des réglages fins, puis terminer sur des réseaux spécialisés sur certains cas d'études. Alors, le premier cas d'étude est la mosaïque antique des saisons, qui est conservée à Saint-Romain en Galles. Et le point de départ était de réaliser un outil de suivi temporel, afin de retracer l'historique de l'œuvre depuis sa création à son abandon, puis de sa découverte aux restaurations contemporaines. Et pour cela, nous avons sélectionné donc les outils de SIG à l'échelle de l'objet avec l'unité de la tesselle. Mais cependant, pour pouvoir réaliser cela, il nous faut bien sûr donc segmenter la mosaïque entière afin de récupérer l'information spatialisée au niveau de l'ensemble de l'œuvre. Donc elle mesure environ 4,5 mètres par 9 mètres, soit environ 40 mètres carrés. Une mosaïque classique, ça contient entre 7 et 10 000 tesselles par mètre carré. Donc ça fait pas mal de morceaux à dénombrer. Et il y a des outils classiques qui existent, mais toutefois nous voulions appliquer les méthodes d'IA directement soit sur les photographies ou sur l'orthophotographie générale de la mosaïque. Donc le premier modèle qu'on a utilisé, qui est donc disponible sur étagère, c'est Segmented Nissing de Meta. Donc la brochure dit qu'il est entraîné sur plus d'un milliard d'annotations d'objets présents sur des photographies. Donc sur la mosaïque, à partir d'une image, on avait l'inconvénient de se concentrer essentiellement sur les représentations graphiques et non sur l'unité tesselle, comme vous pouvez voir en haut à droite. Et nous avons dû adapter les fenêtres de détection grâce au tuilage des photographies. Donc ceci a entraîné un post-traitement, notamment pour supprimer les doublons ou les superpositions de détection. Mais le résultat est satisfaisant. Il met environ 13 minutes sans être fortement optimisé pour une photographie de 45 millions de pixels. Le deuxième cas d'étude, ce sont des pétroglyphes arméniens étudiés dans le cadre de la thèse d'Annie Danielian. Il s'agit de représentations majoritairement animales, présentes en extérieur. Les photographies respectent les normes, on va dire, de photos traditionnelles en archéologie, une échelle, une flèche nord, une charte colorimétrique, et généralement le sujet est au centre de l'image. Un gros avantage pour nous dans ce cas d'étude, c'est que nous avons les masques annotés d'un millier de gravures. Et à partir de là, est-ce qu'il est possible de proposer un outil de segmentation sémantique, et notamment pour gagner du temps pour de futurs relevés? Pour cela, nous sommes appuyés sur un autre outil un peu sur étagère, et on a procédé à un fine-tuning, donc on l'a spécialisé sur nos données, et il s'agit de YOLO dans sa version 9. c'était l'année dernière. Et donc la première difficulté, ça a été de convertir des données Illustrator, logiciel préféré des archéologues, pour produire, qui a été produit sur plusieurs années, afin d'en extraire les masques annotés. Donc, on a eu des petits soucis, notamment, comme on peut voir en haut à gauche, avec la génération des masques. Une fois ça dépassé, nous avons pu effectuer donc la détection des zones d'intérêt, comme vous voyez sur l'image d'à côté, afin de réaliser dessus la segmentation, pour gagner du temps, notamment sur cette étape-là. La deuxième difficulté concerne des segmentations qui peuvent parfois être limitées, notamment à cause des changements de conditions de prise de vue entre les données d'apprentissage et celles sur lesquelles on va venir appliquer les algorithmes. Et initialement, nous avions intégré SAM pour ajouter des annotations manuelles, avec les petits points verts pour dire ça fait partie de la forme, les petits points rouges à exclure. Mais pour des raisons de temps d'expertise disponible, nous avons plutôt procédé à une augmentation virtuelle des données, notamment sur différents paramètres. Donc sur les paramètres de la photo, on a joué sur la teinte, la saturation ou la luminosité. Et ensuite, pour augmenter, on va dire, le nombre de cas d'études, on a fait des changements d'échelle, fait des mosaïques ou des patchs pour combiner des relevés, ou encore faire des suppressions partielles pour s'il y avait jamais on ne voit pas entièrement des formes. On peut faire des décalages des images ou encore des rotations. Nous avons obtenu également là de bons résultats sur ce jeu de données. Bon, il existe des limitations plutôt techniques liées à l'impossibilité, par exemple, d'avoir des masques troués avec YOLO 9. Donc c'est ce qu'on peut voir avec les bouquetins où il y a les deux cornes qui sont réunies entre elles alors qu'il n'y a pas de mise en forme à ce endroit-là. Ou encore, des fois, on a de la fusion de plusieurs masques. Les autres bouquetins qui sont à ce niveau-ci sont combinés dans un seul masque alors qu'il s'agit de deux entités dans le cadre d'un relevé archéologique. Cependant, le plus gros problème sur cette segmentation sémantique, ça a été notamment lié au corpus d'apprentissage, puisque les résultats sont en chute libre lorsqu'on change de région ou de période. Donc on a décidé un peu de changer de méthode. Et pour cela, ça m'amène à notre troisième cas d'étude qui concerne l'art pariétal et aussi l'art mobilier dans la grotte du Mas d'Asile que Thomas a pu présenter un petit peu. Donc il s'agit essentiellement de gravures. Cependant, lors de cette mission, nous avons exclu les représentations sur les parois à cause de la complexité de la composition et aussi le rôle important du relief naturel dans la représentation et dans la figuration. Donc pour cette étude, nous avons décidé de rester sur l'art mobilier et de scinder le travail en deux. Donc nous avons d'abord essayé de distinguer les parties qui correspondent à des parties gravées, donc avec une action anthropique, de celles qui ne le sont pas. Puis plus tard, essayer d'ajouter l'information sémantique pour reconnaître les figures, le bouquetin ou tout autre animal. Et afin de réaliser la segmentation, nous avons essayé de travailler directement sur l'information du relief et non plus sur des photographies où on a vu qu'on avait des fois des problèmes liés aux conditions d'exposition. Et donc nous avons travaillé sur des données obtenues par stéréophotométrie, donc notamment les cartes de normale. Donc, la stéréophotométrie permet d'avoir une lecture fine du relief à partir de techniques multi-éclairage, comme la réflectance transformation imaging. On a un point de vue fixe et plusieurs éclairages sur la même surface, et on obtient l'orientation locale du relief. Je vous montrerai le résultat juste après. Outre ces données numériques, nous avons également la chance d'avoir le corpus annoté de la thèse de Gilles Tosello, notamment sur les plaquettes gravées de Limeuil ou encore de la grotte de Gourdan. Bon, cette thèse a été réalisée dans les années 90, et vous pouvez voir par exemple ici le code graphique utilisé, notamment pour la représentation des relevés. Donc là, on va passer maintenant aux outils donc, spécifiques. Je refais un bond en arrière et revenir sur notre premier cas d'étude. Et là, nous avons décidé d'utiliser un modèle de réseau de convolution. Et donc, ce sont des modèles qui sont entraînés uniquement sur les données définies par l'équipe. Donc pour la mosaïque des saisons, nous avons annoté, enfin, notamment Léo Bayel, une cinquantaine d'imagettes donc de 3 cm de côté, ce qui représente à peu près quelques centaines de tesselles au total, donc sur l'entièreté de la mosaïque. L'outil fonctionne bien et la segmentation donc, sur l'orthophotographie, donc sur l'entièreté de la mosaïque a pu dénombrer 453 300 tesselles environ. Voilà. Donc, ce qui permet de basculer après sur les systèmes d'information géographique et de pouvoir réaliser l'état sanitaire de la mosaïque et aussi de combiner ces informations avec le modèle numérique de terrain lié à la photogrammétrie et de pouvoir avoir des informations locales sur chaque tesselle, notamment la rugosité ou des abrasions, etc. La question suivante est de savoir aussi l'usage de ce type de réseau donc sur le relief afin de dépasser par exemple les limitations liées aux conditions de la prise de vue. Alors je vous avais parlé de la stéréophotométrie, donc le résultat avec la stéréophotométrie c'est qu'on peut séparer l'information de couleur comme on le voit ici à gauche, donc on obtient une image sans ombrage. Et à droite, la carte de normale qui est associée, donc c'est l'orientation locale du relief, où les trois couleurs dominantes, le vert, le bleu et le rouge, indiquent en fait les trois axes dans l'espace. Donc nous sommes appuyés de nouveau sur UNET, parce qu'on a pu le voir juste avant, qu'il a besoin de peu de données en entrée pour produire des résultats qui commencent à être satisfaisants. Le premier écueil, bien sûr, parce qu'il y a des limitations, des difficultés, ça a été lié au recalage des données, des relevés donc réalisés sur des photographies argentiques, sur les nouvelles acquisitions effectuées cette année. Et on a notamment des effets de rotation ou de mise à l'échelle qui ne permettent pas d'avoir un recalage au pixel près, donc de savoir sur la carte de normale qu'est-ce qui correspond à une gravure. Et le deuxième écueil est surtout sur la source de données elle-même. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des relevés, donc c'est une interprétation. Et par exemple, on peut mettre en avant le fait d'une reprise d'une gravure en décalant légèrement le tracé afin de mettre deux traits pour dire qu'il y a eu une reprise de la gravure. Et ça nous a posé énormément de problèmes. Et donc, ce que l'on a dû faire, c'est ce que vous voyez en bas à droite, c'est reproduire dans le repère des nouvelles photographies, des nouvelles données, les relever sur les cartes de normale, mais sans l'expertise, en s'appuyant sur les données de la thèse, mais sans avoir l'expertise sur la réalisation du relevé. Donc là, je vous présente une omoplate gravée de la grotte du Mas d'Azil. Donc ici, vous avez la carte de normale où on voit énormément de figurations dessus. Et ici, je vous propose donc le résultat donc du stage de Nino Rottier, notamment sur la superposition du relevé sur la carte des normales, enfin, de la proposition d'un support de relevé. Donc il s'agit d'une bonne base, mais obtenue avec une faible quantité de données en entrée. On a pu faire à peu près une dizaine de cailloux gravés pour l'entraînement. Et nous voyons toutefois quand même des limitations, hein, c'est un support, c'est un départ, notamment sur les gravures évasées ou encore celles qui sont un peu larges, parce qu'elles n'étaient pas présentes dans l'apprentissage, ou encore la confusion sur des gravures naturelles de l'os ou de la fragmentation, comme on peut le voir avec les petits tracés horizontaux. Mais donc il y a une étape pour filtrer les données par la suite. Un autre exemple, et je vois que le temps file, c'est une mission de cette année dans la citadelle d'Ajaccio, où on a réalisé dans la caserne un relevé, on va dire classique. Maintenant, pour l'archéologie, on a fait de la lasergrammétrie, de la photogrammétrie. On n'avait qu'une petite demi-journée pour faire plusieurs pièces, et il y avait la présence donc de graffitis sur les parois, et on a décidé donc de faire des techniques multi-éclairage. Et donc ça, c'est une zone où il y avait une forte concentration. Et à droite, vous avez le résultat obtenu par stéréophotométrie dite universelle, parce que oui, aussi, on peut faire de l'apprentissage sur la stéréophotométrie, mais sur des données récentes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais le tout, l'intéressant, c'était que ces modèles ont un seuil de prédiction et qui peut nous servir pour approcher la chronologie relative. Et donc, c'est cet exemple. Donc là, j'ai un peu zoomé sur la photographie. Et sur la zone en bas, vous voyez Napoléon avec le N inversé, Napoléon. Et la difficulté, c'est qu'une demi-journée, c'était, je n'arrivais pas à lire ce qui était au-dessus. Et à droite, je vous ai mis donc, la carte de prédiction avec le 0 en violet et 254 en jaune, et ce qui a permis d'avoir donc l'information, notamment sur la première ligne. Et en fait, ce qu'on peut lire, c'est « Vive Napoléon ». Donc à Ajaccio, c'était super. Mais surtout sur le deuxième V, on voit que la confiance et enfin, la valeur donnée permet donc de voir la première barre du V qui est dessinée et la deuxième qui vient le recouper. Donc c'est ça qui a permis de déchiffrer le texte. Pour conclure, la segmentation d'images donc, apporte du temps. Bon, ça, on verra, je pense, dans toutes les présentations, notamment sur les tâches répétitives comme le dessin. Cependant, donc, ça a un coût. Notamment, il faut mettre en balance les objectifs scientifiques avec l'énergie dépensée pour l'apprentissage et aussi les gains potentiels pour les applications futures. Il y a encore la difficulté de produire des jeux de données archéologiques, notamment quand on a la fusion de données hétérogènes basées sur différents supports, donc des photographies anciennes, récentes, des croquis, des relevés. Et surtout, dans ce processus, il ne faut pas oublier la place de l'expert métier. Donc pour nous, c'est l'archéologue. Et à la fois dans l'intelligibilité des résultats, mais aussi dans sa capacité à réutiliser les outils sur de futures missions. Et je vous donne un petit peu aussi les clés pour pouvoir pratiquer par vous-même aussi. Donc, comme l'a dit Thomas, au sein de l'Institut en recherche en informatique de Toulouse, on participe au développement du logiciel AliceVision Meshroom, qui est un logiciel open source. Il y a la version 2025 qui vient de sortir, et notamment, il y a la partie sur les plugins. Donc, on va utiliser Meshroom comme une interface logicielle et on va pouvoir appeler différentes commandes dessus. Et notamment dans nos perspectives, c'est de pouvoir intégrer ces outils de segmentation. Donc, vous faites votre photogrammétrie, vos acquisitions multi-éclairage, votre segmentation et vous pouvez fournir l'ensemble des résultats pour les collègues. Donc, je vous laisse jouer maintenant avec Meshroom. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on est tous très jaloux de ces objets d'étude. On aimerait bien pouvoir lancer des algos dessus. C'était passionnant. Oui. Y a-t-il des questions? On a une ou deux minutes.
Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais revenir sur la segmentation, notamment avec l'outil SAM ou un autre outil. SAM est multimodal, il me semble, donc on peut aussi faire intervenir du texte, donner en entrée du texte pour guider la segmentation. Est-ce que ça aurait un intérêt de l'utiliser? Alors, évidemment, quel terme de label sémantique, là, c'est très spécifique, mais voilà, est-ce qu'il y aurait un intérêt à rendre les outils multimodaux pour améliorer les résultats?
Là, sur les tessels, je ne sais pas exactement ce qui va détecter les formes de couleurs globales. Donc, c'est comme on avait pu le voir avec le fond. Là, parce que je vois l'exemple des pétroglyphes, j'avais vu OCA à Athènes, ils avaient fait justement les outils YOLO sur les pétroglyphes qu'ils ont en extérieur. Et la grande difficulté, c'est que dans la base d'apprentissage, il y a toute la représentation des animaux, on va dire, récents. Mais dès qu'on passait sur des formes imaginaires ou un peu différentes, même je pense qu'avec un prompt, on ne pourrait pas venir les détecter, en tout cas les caractériser, les désigner.
Ouais, merci Antoine. J'ai une question parce que là, vous avez travaillé sur des acquisitions passées beaucoup. On se pose beaucoup la question de savoir si d'un point de vue méthodologique, on peut définir, parce que tu insistes beaucoup sur la variation dans les conditions de prise de vue, d'acquisition, etc. Et on se dit, est-ce qu'on sera en capacité de définir, je veux dire, quelles sont les bonnes conditions d'acquisition pour garantir que pour les 20 ans à venir, on sera capable de refaire des acquisitions et de les comparer, etc. Parce que c'est un peu le projet qu'on a au sein des monuments nationaux. Et là, on va démarrer quelque chose sur les arbres. Et on se dit, mais comment garantir que dans 20 ans, refaisant une acquisition d'un arbre, on saura comparer avec ce qu'on a fait en 2026, quoi.
D'accord, oui.
Et détecter des choses, surtout.
D'accord. Alors là, c'était le programme que j'ai donc, en Corse, notamment sur l'évolution et le suivi temporel de sites patrimoniaux en trois dimensions. Et là, les détections de changements, ça peut être soit lié à la géométrie, donc la forme qui est différente, mais ça peut être un décalage global. Un tremblement de terre, tout s'est décalé. Ça peut être des mouvements qui sont partiels. Une partie sur un dolmen, il y a une seule dalle qui est en train de se casser la figure. Est-ce que celle-là, on peut la détecter isolément? Ou alors, ça peut être aussi l'évolution de craquelures et de fissures sur l'état de paroi. Ça, c'est au niveau de la géométrie. Après, on peut avoir tout ce qui est la détection des changements de colorimétrie. Là, c'était la Grotta Scritta qui était dans le nord, au niveau du Cap Corse, où on a une altération du pigment. Alors, les bonnes conditions d'acquisition. Là, le développement, je pense qu'il est surtout lié sur les données images ou photographies. Parce que les photos, on va dire qu'elles sont matures au niveau numérique, on peut avoir des photos. Mais c'est tout ce qui est la partie de traitement et de logiciel qui se développe fortement. C'est comme pareil pour la lasergamétrie. Là, on a très peu de développement, on va dire, technique sur le faisceau laser en lui-même, mais plutôt sur les traitements qu'on peut faire sur le nuage de points. Là, sur un arbre, le plus important sera d'avoir un bon géoréférencement afin de pouvoir le comparer dans le même espace 3D.
Ouais, mais pour être sûr, parce que c'est vraiment la question, c'est ce que tu évoques, de discriminer entre les évolutions qui sont normales, enfin tu parles du menhir qui se casse la figure, et du fait que la différence qu'on voit, c'est juste une différence dans les conditions d'acquisition, parce que ça peut être aussi le cas. Et ouais, d'un point de vue méthodologique, on se pose la question, comment on va arriver à éliminer un des facteurs pour être sûr qu'on se concentre bien sur ce qu'on veut regarder, quoi.
Là, c'est repartir un peu sur ce que Thomas avait évoqué sur les faire data ou sur le projet IA, sur les erreurs de reconstruction liées aux outils 3D. C'est de bien documenter l'acquisition, comment elle a été faite. Et pourquoi pas aussi multiplier les techniques d'acquisition. Parce que là, tu auras une limitation sur le laser, une limitation sur la photogrammétrie ou sur autre méthode. Et avec ce faisceau tu pourras essayer de définir ce qui fait partie de ta marge. Ouais.
Merci beaucoup.